Il est 8h39.
France Inter, le 7-9, intervenez.
Au 01 45 24 7000, d'abord Erwan qui nous appelle de Bretagne. Bonjour.
Oui, bonjour, merci de prendre ma question. Ben, monsieur Rachine, voilà, si votre candidate se dit républicaine, pourquoi refuse-t-elle de passer dans un commissariat de police à ses convocations? Moi, je pense à la préélection de votre candidate. Imaginez tous les citoyens qui doivent être convoqués par la police qui font exactement le même geste. Vous en pensez quoi? Merci de répondre avec franchise. Bonne journée.
Merci, Erwan.
Oui, bonjour monsieur, mais j'ai déjà eu l'occasion de vous dire quel était notre état d'esprit dans ce domaine-là. Encore une fois, c'est une enquête qui est ouverte depuis 2 ans. Ce rapport, tout le monde l'a entre les mains depuis un certain temps maintenant, depuis au moins juillet dernier. On aurait parfaitement pu demander un certain nombre et poser un certain nombre de questions à Marine depuis au mois d'août, encore une fois, au mois de septembre. Or, on ne l'a pas fait.
Vous n'auriez pas crié au complot à ce moment-là.
On ne l'a pas fait. On était loin de la période électorale. Il faut une période électorale qui soit sereine. Par conséquent, Marine a un droit qui est celui de ne pas s'y rendre dans le cadre de son immunité parlementaire. On en a parlé tout à l'heure. Oui. Et elle se rendra aux convocations après les élections.
Immunité parlementaire européenne, parce que l'article 26 de la Constitution que vous avez cité tout à l'heure s'applique aux parlementaires nationaux.
C'est le même principe.
C'est le même principe.
Et ça ne vous aura pas échappé.
Mais vous souhaitez... Il y a plusieurs élus qui ont souhaité que soit levée l'immunité parlementaire européenne de Marine Le Pen.
Dans une toute autre affaire. Donc ça n'a rien à voir.
Dans une toute autre affaire. Non, en l'occurrence là, pour...
Dans une toute autre affaire. Donc vous verrez ça.
Il y a des élus qui ont souhaité la levée de l'immunité parlementaire pour que Marine Le Pen puisse répondre aux questions des policiers. Je ne me trompe pas, David Rachdi.
Il y a eu une demande de levée d'immunité parlementaire européenne de Marine sur une toute autre affaire qui n'a strictement rien à voir avec celle qu'on est en train d'évoquer aujourd'hui.
Ok. Monsieur Cohen. Christian nous appelle des Hauts-de-France. Bonjour Christian.
Oui, bonjour. Bonjour messieurs. Bonjour monsieur Racheline. Une petite question. Vous étiez bien présent sur le plateau de France 2 lors de l'émission politique du 9 février dernier. Vous voyez assez souriant d'ailleurs derrière, à l'évocation du tweet douteux de Jérôme Cochet, votre directeur de communication. J'aimerais savoir quelles sont les sanctions qui ont été prises contre lui par rapport à ce tweet, puisque Madame Le Pen s'est retournée vers vous pour connaître les sanctions. Juste préciser une petite chose concernant Madame Le Pen qui a menti ce soir-là, puisque non seulement elle connaissait très bien Monsieur Cochet, au-delà de la photo, simplement Monsieur Jérôme Cochet était votre candidat aux dernières cantonales, aux élections départementales de décembre 2015, dans le canton de Nice 6, battu au deuxième tour. Donc, quelle sanction et pourquoi mentir en disant ne pas connaître alors qu'elle est la responsable de la commission d'investiture? C'est elle qui signe. Voilà. Merci de me répondre aussi franchement, monsieur Rachline. Et surtout, cessez de sourire quand on évoque un problème comme Théo derrière vous.
Alors, en l'occurrence, je rappelle que Jérôme Cochet, dans ce tweet, évoquait Théo et la visite que lui avait rendue François Hollande, le président de la République, Théo comme une racaille. François Hollande est au chevet des racailles.
Je souris parce que je suis un garçon joyeux et vous me verrez toujours sourire, en tout cas la plupart du temps, c'est pas le problème. Ça ne voulait pas dire que j'étais en phase avec ce qui a été dit et j'ai d'ailleurs condamné ce qui a été dit de manière la plus ferme. C'était le cas de Marine aussi, d'ailleurs, qui tout de suite a dit qu'elle ne partageait pas ni ce point de vue ni cet état d'esprit.
D'où la question de l'auditeur.
Donc les choses sont extrêmement claires. Marine ne connaît pas particulièrement ce monsieur qui est un de mes responsables de communication dans ma commune. Et donc elle a peut-être croisé deux fois des grandes réunions publiques. Il a peut-être pris un selfie. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle est en phase avec ce qu'il dit avec l'ensemble de ses prises de position. Pour le reste, croyez-moi bien que je lui ai fait part de mon désaccord et que il a d'ailleurs écrit un courrier pour dire à ce jeune homme qui a vécu une situation absolument dramatique, en l'occurrence Théo, pour lui dire que son état d'esprit n'était pas ni de le mettre en cause personnellement, ni de l'attaquer, et qu'il s'était trompé par ce tweet.
Il s'est trompé.
Oui, il s'est trompé, bien sûr. Il s'est trompé, il n'avait pas à dire qu'il s'agissait d'une racaille sans savoir ce qui s'était passé, comme d'ailleurs on n'avait pas accusé la police sans savoir exactement ce qui s'est passé. Il y a une enquête qui doit... et il y a la justice qui doit nous dire ce qui s'est exactement passé. Mais à ce moment-là, on pourra prendre les sanctions nécessaires.
Donc il a envoyé une...
Oui, absolument. Lettre d'excuse. Absolument, je vous l'adresserai si vous voulez pour que vous en ayez copie.
Très bien. D'autres questions d'auditeurs qui nous arrivent. Raphaël Rhône-Alpes, David Racheline n'a pas bien répondu aux premières questions sur les fonctionnaires, sur le nombre de postes. Pourrait-il être plus précis sur son argumentaire ?
Je peux vous donner un certain nombre d'exemples d'économies que nous allons réaliser. Encore une fois, j'ai pas de chiffres précis pour les fonctionnaires qui ne seront pas remplacés dans les grandes régions, mais c'est vrai qu'il y a une vraie difficulté avec la fonction publique territoriale. Moi, je le vois dans ma commune. Lorsque je suis arrivé à la tête de ma municipalité, il y avait 1300 fonctionnaires. Évidemment que c'est un poids extrêmement lourd, et c'est le cas dans la plupart des grandes administrations, des grandes collectivités territoriales. Donc oui, il y a des efforts à faire de ce côté-là. Il ne faut pas que ce soit mécanique, parce qu'il y a des domaines dans lesquels nous avons évidemment besoin de fonctionnaires, y compris localement. Mais pour autant, il faut être dans une dynamique de réattribution des compétences à ceux qui savent faire. Je parlais des communes tout à l'heure. Il faut donc, en supprimant les intercommunalités, par nature, de manière mécanique, nous allons supprimer un certain nombre de postes. Évidemment, c'est logique, et c'est dans cette dynamique d'économie que nous nous situons aujourd'hui.
Tout à l'heure, vous citiez François Fillon et Emmanuel Macron, et vous pouviez citer un nombre précis de fonctionnaires qui seraient supprimés. Donc, il y a des éléments du débat qui nous manquent chez vous.
N'ayez pas l'esprit comptable de cette manière.
L'esprit comptable, il est dans
l'objectif d'une candidate.
Projet, vous avez une trajectoire qui est
l'objectif d'une candidate.
De déficit, mais pas en nombre de fonctionnaires.
Excusez-moi.
Plus ou moins de fonctionnaires en 5 ans.
L'objectif d'une candidate à l'élection présidentielle, c'est de présenter un certain nombre de grands projets pour notre pays. En voilà un. Une grande réforme institutionnelle qui permettra, par exemple, d'abaisser le nombre de députés à 300.
Et finalement, le chiffre n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est simplement l'indication.
Qui permettra d'abaisser le nombre de sénateurs à 200. Qui permettra de faire des économies sur les grandes régions, sur l'Union européenne. Des économies, notre plan, il prévoit à peu près 80 milliards d'économies. Je peux vous citer chaque domaine. 8 milliards d'euros grâce à la lutte contre la fraude sociale. 15 milliards d'euros sur la fraude fiscale. 5 milliards en taxant les profits détournés des grands groupes alors que l'activité est réalisée en France. 8 milliards sur le budget de l'Union européenne, on en parlait tout à l'heure. 15 milliards d'euros sur l'immigration. Il y a encore toute une série d'autres postes. Et c'est vrai qu'avec cette réforme institutionnelle, il y aura évidemment des économies qui seront réalisées, je vous le confirme.
Bernard Guetta.
En l'occurrence, 10 milliards d'euros sur les dépenses inutiles des administrations.
Quand on fait des économies sur le budget de l'Union européenne, on fait aussi des coupes sombres dans les subventions de la politique agricole commune, dans les fonds structurels qui permettent de construire des...
Non. Vous vous trompez, puisque l'argent de l'Union européenne, en fait, c'est le nôtre. Et au contraire, on en perd plusieurs milliards par an, puisqu'entre ce que nous donnons et ce que nous recevons, il y a un delta important de plusieurs milliards d'euros. Par conséquent, il s'agit pour nous, là encore, de permettre justement d'utiliser cet argent de manière beaucoup plus efficace, sans passer par des commissaires européens, par un Parlement européen.
J'ai une question précise d'auditeur là-dessus. Adama du Finistère, Marine Le Pen prévoit de quitter l'Union européenne, si elle y parvient, quel est le montant des subventions qui seront accordées à nos agriculteurs? Comment envisage-t-elle de pallier ce qui, pour nos paysans, constituerait un sacré problème de trésorerie?
Vous vous trompez totalement, parce
non,
que là
je,
encore,
je cite une question d'auditeur.
Là encore, pas un centime ne manquera à nos agriculteurs, et les budgets dans ce domaine seront consolidés. Ils toucheront non seulement le
ça
même
ne
montant...
Ça ne répond pas à la question.
C'est chiffré ou pas? Les agriculteurs, ils savent combien ils touchent de l'Europe.
Ils toucheront précisément le même montant, et même, je vais vous dire mieux, nous allons soutenir encore davantage les exploitations familiales. Mais ce n'est pas la seule mesure à prendre dans ce domaine-là, parce que nos agriculteurs, ils survivront bien sûr avec ces subventions, que la France pourra parfaitement leur verser de manière directe, mais aussi en faisant du patriotisme économique, en les faisant bénéficier de la commande publique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, car ils sont en concurrence déloyale avec toute une série de pays qui n'ont pas les mêmes coûts en matière de production, en matière à différents égards.
Nous exportons énormément.
Vous avez raison, mais pas seulement.
Nous en importons aussi. Oui, bien sûr. Mais si on arrête les importations, nous arrêtons les exportations. Et à ce moment-là, nos exploitations agricoles, grandes et petites, s'en portent très mal.
Ça n'est pas la réalité. Moi, je vais vous prendre un cas extrêmement concret.
Ce n'est pas la réalité, je crains que si.
Je vous prends un cas extrêmement concret, avec des horticulteurs fréjusiens qui sont aujourd'hui en concurrence déloyale avec les produits espagnols et qui, si nous ne faisons rien, cher monsieur, disparaîtront.
Mais cher monsieur le sénateur, nous pouvons toujours trouver...
Et c'est le cas, pardon, d'énormément d'agriculteurs qui sont soumis aujourd'hui à cette concurrence déloyale. Il faut aussi refuser les traités tels que le CETA qui ont fait tomber, qui feront, s'ils étaient adoptés, toute une série de règles qui aujourd'hui protègent évidemment nos agriculteurs.
Qui nous permettront aussi d'exporter des produits labellisés, de les protéger.
Et qui frapperont les agriculteurs tels qu'ils le sont déjà frappés aujourd'hui à cause d'une concurrence déloyale qui est insupportable pour eux. La réalité.
Mais vos homologues pourraient dire la même chose dans les pays étrangers, monsieur Rachlin. Vos homologues pourraient dire la même chose.
Il faut continuer à soutenir nos produits de qualité, il faut continuer à soutenir des labels de qualité comme nous le faisons. Là-dessus, nous sommes parfaitement d'accord.
Protégés par le CETA, notamment.
Non, absolument pas.
Mais bien sûr, les labels de qualité.
C'est même exactement l'inverse. Et tous ces traités, d'ailleurs, ont contribué à faire tomber, par exemple, les quotas laitiers, par exemple, toute une série, encore une fois, de règles qui les protégeaient. Aujourd'hui, ils sont face à une concurrence qui est absolument insupportable. Et vous le voyez bien, ils sont dans une situation qui n'est plus tenable. Il faut donc les protéger.
Thomas Legrand. Oui, Marine Le Pen a dit à Nantes que la justice n'était pas un pouvoir, mais une autorité.
Oui, c'est vrai.
Alors, dans la Ve République, effectivement, il est inscrit que la justice est une autorité et pas un pouvoir. Oui. Mais en réalité, la démocratie, c'est la même chose. En réalité, le pouvoir judiciaire est un pouvoir. La justice rend des décisions qui sont souveraines et qui ne peuvent pas être contestées par les deux autres pouvoirs qui forment le trépied de la démocratie, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Qu'a voulu dire exactement Marine Le Pen en déniant le caractère de pouvoir à la justice?
Non, elle a simplement rappelé qu'il s'agissait d'une autorité et que...
C'est quoi la différence entre une autorité et un pouvoir?
Ça ne pouvait pas être politisé, parce qu'il y a un certain nombre de cas dans lesquels on peut se poser la question. Moi, j'ai été très choqué, et nombreux sont les Français à avoir été choqués par l'attitude du syndicat de la magistrature, qui appelle régulièrement...
La justice ou le syndicat de la magistrature?
Qui appelle régulièrement à des manifs contre la police, qui a fait le fameux mur des cons dans lequel se trouvaient un certain nombre de parents d'enfants qui avaient été de victimes. Bon, tout ça est une vraie difficulté.
Mais la justice rendait.
Il s'agissait simplement de rappeler le cadre, mais vous avez raison. La justice rend
des décisions qui
sont parfaitement souveraines. On est d'accord là-dessus.
Mais c'est pas d'accord sur le trépied.
C'est pas du tout incompatible avec ce que Marine a dit.
David Rachin, je reviens sur les propos de Marine Le Pen dimanche à Nantes. Dans le cas d'une victoire de Marine Le Pen à l'élection présidentielle, il y aura une purge de fonctionnaires, il y aura un examen de ceux qui, comme elle l'a dit dimanche dans son discours, se sont mal comportés.
Non, mais elle n'a pas dit du tout qu'un certain nombre de personnes s'étaient mal comportées. Elle a parlé de ce qui pouvait se passer avec un pouvoir politique aux abois qui utilisait parfois des moyens d'État pour déstabiliser leurs adversaires. Mmh. Elle parle de ce qui pourrait se passer, pas de ce qui s'est passé. Et la purge, pardon...
Ces fonctionnaires devront assumer le poids de ces méthodes illégales.
Oui,
Ça veut dire une purge. Si elles étaient
employés. Ce que je peux vous dire...
Elles n'ont pas été employées parce que vous ne nous avez pas donné d'exemple précis.
On va bien voir. On verra bien ce qui se passe dans les prochains temps. Il y a une déclaration, vous l'avez entendu, du Premier ministre qui dit « Je vais rentrer en campagne, je vais utiliser les derniers mois de mon mandat pour lutter contre le Front National. »
Il va aller dans les meetings, faire des discours. On verra ça.
Mais
en fait, c'était un procès d'intention.
Ça tombe comme par hasard avec une accélération du tempo...
C'était avant, d'accord.
Du tempo... judiciaire. Bon, c'est étonnant. Voilà, je le remarque simplement. Quant à la purge, pardon, mais la purge, elle n'aura certainement pas lieu avec Marine, qui a totalement confiance, encore une fois, en nos fonctionnaires. Elle l'a dit et répété, y compris au meeting de Nantes. Je vous le rappelle, en faisant l'éloge de l'État. Mais en revanche, la purge, elle aura lieu avec M. Fillon, qui veut supprimer 500 000 fonctionnaires. Vous devriez plutôt lui poser la question.
Ben, on ne sait pas combien. Malheureusement, on ne sait pas combien.
Mais zéro, puisque... Nous ne supprimerons pas, puisqu'on ne veut pas. Ils partiront en retraite et donc un certain nombre ne seront pas remplacés. Je vous l'ai dit tout à l'heure.
Exactement comme François Fillon et Emmanuel Macron. Emmanuel Macron et François Fillon n'ont pas décidé de licencier les fonctionnaires non plus.
C'est des non-départs.
Ça.
David Rachline, vous c'est restez égal, avec d'ailleurs. Nous. On marque une pause et on accueille Augustin Trapenard avant de retrouver Alex Vizorek. Il est 9h05. Bonjour Augustin Trapenard.
Salut Patrick.
Vous avez une question pour David Rachline.
Oui, bonjour David Rachline.
Bonjour.
Merci de me répondre franchement. David Rachline n'a pas été précis dans sa réponse. Vous n'avez pas répondu. Alors, ce ne sont pas les mots des journalistes, ce sont les mots des auditeurs ce matin qui ponctuaient leurs questions. Et c'est étonnant, je trouve, pour un parti politique qui a toujours revendiqué la franchise contre la langue de bois ou les éléments de langage, vous ne trouvez pas ?
Mais de quelle question vous parlez ?
Ah bah toutes, là j'ai pris les questions qui étaient posées par les auditeurs ce matin. J'ai vu toutes ponctuées.
Vous êtes un petit peu sévère, cher monsieur. Mais vous savez, moi je vous réponds de manière extrêmement précise. Je vous ai parlé très précisément des postes sur lesquels on voulait faire des économies, de notre plan d'économie de 80 milliards. Je vous ai dit où on allait les chercher d'ailleurs, dans la fraude sociale, la fraude fiscale, dans l'Union européenne, l'immigration, dans cette réforme des collectivités territoriales dont je parlais tout à l'heure. Donc au contraire, j'essaye d'être le plus précis possible. Et s'il manque un certain nombre de détails, je serais ravi de répondre à vos auditeurs. Ils peuvent m'écrire et je leur donnerai tous les détails qu'ils veulent.
Non, vous n'avez pas répondu à la question de savoir qui étaient les fonctionnaires visés par la diatribe de Marine Le Pen dimanche. Voilà. Les fonctionnaires à qui un personnel politique demande d'utiliser.
Aucun en particulier.
Demande de surveiller les opposants.
Je vous ai dit qu'elle parlait des méthodes du gouvernement et que.
Mais qui sont les fonctionnaires?
Elle voulait dire qu'elle avait confiance en les fonctionnaires, beaucoup moins en le gouvernement et que donc, voilà, les choses sont claires de ce point de vue.
Les fonctionnaires. Qui surveillerait les opposants et organisera à leur rencontre des coups tordus ou des cabales d'État.
Bah
qui
alors, sont ces fonctionnaires ? Mais elle parle de ce qui pourrait se passer avec un gouvernement, encore
qui,
une fois.
Qui
mais c'est ce dans l'éventualité, qui se pourrait finalement. Se passer dans le cas où un gouvernement passerait son temps et les mois qui lui restent plutôt que de gouverner, d'essayer d'attaquer, de surveiller ses adversaires.
C'était pas au conditionnel, c'était au présent.
C'est possible aussi, hein. En tout cas, c'est ce qu'a déclaré M. Cazeneuve. Donc il faut qu'il assume ses responsabilités et ses déclarations.
Boomerang, Augustin Trapenard, dans 10 minutes.